Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Et bah oui, on est très très omnisports hein, au cours de cette émission. On avait parlé du salon de l'auto, on avait parlé de trampoline, on a aussi parlé de curling, on a aussi parlé de MMA ces précédentes semaines. Et bien aujourd'hui, et oui, on va aller skier. On peut habiter effectivement Paris et la région parisienne et on va pouvoir aussi s'adonner au ski. Je vais saluer tous mes invités qui sont donc à ce micro. On va commencer avec le président du comité de ski de Paris, Éric Ginesti. Éric, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et vous êtes d'accord avec moi, hein, on peut bien être parisien ou francilien et faire du ski. Hein.
Ah, on peut carrément être parisien et faire du ski, et même en faire beaucoup. Et c'est d'abord moi qui vous remercie de m'avoir invité.
D'accord.
Et de pouvoir parler un petit peu du ski et des skieurs.
D'accord. Et puis, bah, vous êtes accompagné. Alors là, c'est incroyable. Il vit sur Paris ou dans la région parisienne et il est moniteur de ski. Bah oui, c'est Solal, Solal Gedge. Bonsoir Solal.
Bonsoir, ouais. Merci pour l'invitation.
Moniteur de ski, dans un centre bien connu, l'UCPA.
C'est ça. Hein le but était d'allier la passion et mon plaisir du ski avec mon métier. Et j'ai hâte de vous en parler à cette antenne ce soir.
D'accord. Et puis, bah, il a été la particularité, tout en étant d'origine marocaine, donc d'avoir été à la fois skieur alpin et skieur de fond. C'est notre ami Samir. Bonsoir Samir.
Bonsoir.
Ouais.
Bonsoir
à toutes. Quel privilège.
Ah bah écoutez, ça s'appelle un acte manqué, je crois.
Voilà. Et puis, qui dit glace, neige, dit Vanessa. Bonsoir, Vanessa. Ça
bonsoir,
va
oui. Ouais.
Alors, on parlera quand même aussi de l'héritage des Jeux à travers une interview que tu as eu l'occasion de ramener donc, il y a quelques semaines.
Hein. Oui.
Donc, parce que bah, les Jeux d'été, c'est terminé. On va parler bientôt des Jeux d'hiver, hein, notamment pour 2030. On aura l'occasion de l'évoquer. Puis, on va saluer aussi notre ami Alexandre hein, qui nous a concocté un beau, beau journal des sports. Il interviendra tout à l'heure. Je sais qu'il y a eu une actu très dense, c'est très chargé, et notamment au niveau des disciplines olympiques, entre le tennis de table, le triathlon et puis le cyclisme sur piste. Il y a eu encore beaucoup d'événements donc liés à l'Olympisme. Alors, je l'ai dit, Eric, comment la passion du ski, elle arrive? Comment, quand on est parisien, francilien, on se retrouve président du comité de ski? Je voudrais quand même saluer M. Lorieux, qui avait été un de nos invités au tout début de nos premières émissions, hein, qui, je sais, nous écoute, donc on le salue bien fort.
Absolument, on le salue. Alors, comment on devient dirigeant dans une structure de ski et accessoirement président du comité de Paris? Pour tout dire, je pense qu'il faut quand même être un petit peu bizarre quand on est parisien, on va le reconnaître. C'est pas forcément très intuitif.
Ouais.
Je pense que tous, autant qu'on est, enfin presque tous en tout cas, on a peut-être eu la chance au départ d'avoir des parents qui nous ont emmenés faire du ski. Mmh. Pour ceux de ma génération, on a aussi eu la chance de vivre les classes de neige, choses qui ont à peu près disparu maintenant, mais c'est vrai que ça a permis à des générations entières de découvrir la montagne, la neige, le ski. Et ensuite d'y retourner. Et puis après, bah, alors moi, je suis rentré vraiment dans la vie fédérale, donc en club et ensuite en comité, à travers, si je puis dire, à travers ma fille. Mmh. À savoir que quand elle a commencé, bien entendu, elle a été sur les skis toute jeune, dès qu'on a trouvé des chaussures de ski à sa taille, en fait. Et c'est aussi simple que ça. Et quand elle a commencé à avoir un niveau plutôt pas mal en ski, à faire un peu des compétitions ESF, les flèches,
ouais,
les chamois.
C'était plus que les étoiles.
Des étoiles. Et là, bah, y a des gens qui nous ont dit, écoute, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'essayer de rentrer en club. Et là, on a pris Internet, on a cherché club de ski à Paris, et à notre grande surprise, on s'est aperçu qu'il y avait des clubs de ski à Paris.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça que toute l'histoire a commencé.
Ouais.
Et puis après, bah, c'est le milieu associatif, avec son fonctionnement classique. Et j'ai eu le malheur un jour, le malheur et le bonheur en même temps, de dire, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas.
Et voilà.
Quand on dit ça, on met le doigt, on passe très vite le bras, et puis finalement, il n'y a plus que les orteils qui dépassent.
Mm-hmm.
Et on se retrouve à en faire une activité très prenante.
Oui, et donc, y a combien de clubs de ski sur Paris maintenant, et sur la région parisienne? Je crois que ça marche beaucoup avec les entreprises quand même. Hein.
Alors, on a, on a sur l'ensemble de la région Île-de-France, alors au niveau de la Fédération française de ski, la région Île-de-France, c'est une très grande région, puisqu'elle comprend l'Île-de-France, mais elle va au nord jusqu'à la frontière belge.
Bah oui.
À l'ouest, la Normandie, à l'est, la Champagne, et au sud, le Berry et presque la région centre. Donc on a une très grande surface géographique. Sur cette surface, il y a 37 clubs au dernier recensement. Et ça, tout ça amène à peu près 950 licenciés. Et sur Paris Intramuros, c'est à peu près la moitié des deux chiffres. C'est-à-dire qu'il y a 15 clubs sur Paris Intramuros qui représentent 490 licenciés à peu près. Dans ces effectifs de licenciés, il y en a un peu plus de la moitié qui sont des compétiteurs ou des dirigeants. Et le reste, donc disons 45% qui sont des skieurs de loisirs. Et on a effectivement trois grandes catégories de clubs. D'une part, des structures qui sont réellement des ski clubs. Donc c'est un club où on fait du ski et puis c'est tout. On a à côté quelques grands clubs omnisports qui pratiquent tous les sports, dont une section ski.
Ouais, comme le Stade Français ou le Racing Club de France.
On parlait tout à l'heure du stade français et du Racing. Et puis, on a des clubs d'entreprise. Et là, c'est un petit peu une spécificité parisienne, dans la mesure où, bien entendu, sur Paris Intramuros et région parisienne, on a beaucoup de sièges sociaux de grandes entreprises. Et dans certaines de ces grandes entreprises, en tout cas, il y a un club de ski. Donc, ça va être des boîtes comme la SNCF, par exemple, qui a plusieurs clubs de ski, des banques comme la BNP, la Société Générale, des sociétés comme Dassault, etc., dans lesquelles il y a un ski club.
Donc, ça donne beaucoup de vivier. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a des grands champions et des grandes championnes qui sont nés à Paris. On a Perrine Pellen, les anciens, les jeunes n'ont peut-être pas connu. Et puis, Jean-Claude Killy.
Alors, on a Jean-Claude Killy qui est multicasquette, hein, quand
oui,
même.
Enfin,
il est alsacien d'origine,
oui,
né
enfin,
à Paris.
Il est né en région parisienne.
Il est parti
et
après
Perrine
en Savoie.
Je crois qu'elle est née à Boulogne-Billancourt. Hein,
on a eu également Caroline Attia, qui a passé une petite dizaine d'années en équipe de France, qui a été une fois vice-championne, deuxième de la Coupe du Monde de descente. On a eu beaucoup également de champions de France, voire un même au niveau mondial en catégorie citadin. Alors, sachant que ce qu'on appelle citadin dans le domaine du ski de compétition, en fait, c'est une notion très large, puisqu'à partir du moment où vous ne résidez pas dans une station de ski, vous êtes citadin. Donc, ça veut dire qu'à Paris, vous êtes citadin, ça ne surprendra personne. À Lille, vous êtes citadin. Dans un village du Loiret ou de je ne sais pas où, vous êtes citadin également. Et là où ça peut devenir un petit peu plus compliqué pour nous, à Chambéry, vous êtes citadin. À Albertville, vous êtes citadin.
Ah oui.
Donc, on est dans la même catégorie citadin que des gens qui se trouvent à une demi-heure, une heure des pistes. Mais on a eu un certain nombre de champions. Et puis, on a eu également, aux Jeux Olympiques, ça s'est arrivé une seule fois aux Jeux d'Albertville. Ils avaient inauguré l'épreuve du kilomètre lancé. Qui était en démonstration. Après, ça n'a pas été reconduit, malheureusement. Et celui qui a remporté la médaille d'or s'appelait Michael Pfeffer, était un licencié dans un club parisien.
Ah oui. Alors, il y a aussi des clubs qui sont spécialisés. Par exemple, moi, j'ai connu un club comme Viroflay, qui était spécialisé en ski accro. Sébastien Faucras, le mari maintenant de Marie-Jo Pérec, donc a été un des brillants compétiteurs. Et puis, il y a des clubs aussi spécialisés dans le biathlon. À Montesson, par exemple.
Tout à fait. On a un club qui s'appelle le Biathlon Club de Montesson, tout simplement. Donc, c'est vraiment l'activité. Et puis, à côté, on a des clubs qui sont plus ou moins orientés sur une activité ou une autre. Donc, plus ou moins sur l'alpin, plus ou moins sur le fond. Et également, plus ou moins sur le loisir ou plus ou moins sur la compétition. Donc, il y a un petit peu de tout dans ce grand vivier, effectivement, comme vous disiez.
Alors, cela, racontez-moi un petit peu votre parcours. C'est quand même fou. Vous avez toujours habité Paris ou la région parisienne?
Oui, tout à fait. Je suis né à Paris 11e.
Oui, voilà. Ah oui. Plus.
Oui, si on peut dire. Non, et puis, mon parcours, de manière très succincte, je suis sorti avec un bac L du lycée. Je me suis mis en tête de faire une classe préparatoire aux grandes écoles, au final, en littéraire, toujours. Et c'est seulement lors d'un cours de spécialité géographie sur une carte topographique que je me suis dit qu'en fait, il fallait quand même aller analyser la carte topographique en montagne.
Il n'y avait pas de famille en montagne qui faisait du que tout. On non, allait passer quelques vacances et puis bon voilà, on skiait quoi.
Comme le disait Eric, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient une fois par an au ski depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Voilà, ça a été toujours un loisir de passage des médailles, un loisir de commencer à passer un petit peu du temps en compétition sur les chamois et les flèches. Et puis ce n'est que très tardivement, en vérité, que j'ai voulu en faire un métier, hein, tout simplement.
Donc vous allez bientôt partir, là. Vous allez bientôt quitter la capitale. Là.
Tout à fait, en moins d'une semaine.
Ouais, c'est ça. Donc vous êtes, je crois, moniteur à l'UCPA.
C'est ça.
Donc la saison dure de quand ? D'octobre à mai, à peu près ?
Oui, parce qu'on a des périodes de formation qui commencent effectivement aux alentours du 3 novembre et qui se terminent le 22 décembre avant d'entrer sur nos centres d'affectation pour une saison qui va du 22 décembre jusqu'au 5 mai en l'occurrence.
Et vous, vous êtes spécialisé ski alpin ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Et dans quel, où est-ce que vous exercez ?
Alors là, je suis sur le centre UCPA de Flaine-Lindard, donc c'est à 30 km de Chamonix, au-dessus de Sallanches.
D'accord.
Voilà, un domaine skiable qui...
là où Bernard Hinault était champion du monde en 80.
C'est ça. Exactement. Non, c'est des dossards qui nous portent à cœur et qui nous portent chance. Mais oui, qui est donc sur le domaine de Samoins, Les Carreaux, Six Fers à Cheval, Morillon, Flaine.
Ah oui, Morillon. Je crois que c'est le pays de Denaria. Morillon, champion du monde de descente de 2002.
Ouais. Tout à fait.
Ouais, ouais. Antoine Denaria, c'est son pays. Ouais. Ah ouais. Et donc, voilà, vous exercez ce métier. L'été, qu'est-ce que vous faites ?
Alors l'été, pas rien, non. On essaye de trouver des jobs qui nous plaisent. En l'occurrence, moi, je suis barman à Paris, hôte d'accueil. Voilà, le but du jeu maintenant, c'est de continuer à développer des compétences, notamment sur des diplômes d'état de sport. Donc, j'essaye des nouveaux sports, du VTT potentiellement.
Il y a un âge limite ? Oui, parce que vous pourriez être moniteur de VTT l'été, par exemple, en montagne. Un doublé, faire le ski l'hiver et puis le VTT.
Beaucoup de mes collègues le sont et ça, du coup, forcément, enjoint dans la réflexion de savoir si c'est possible ou pas. Je ne m'y suis jamais vraiment essayé.
Oui. Il y a un âge limite pour être moniteur de ski, non ?
Non, ce qui va être vraiment déterminant, c'est plutôt l'âge quand on va passer les premières étapes du diplôme qui sont les plus compliquées. C'est des épreuves de performance et nécessairement qui dit performance dit beaucoup d'entraînement, que ce soit physique et mental. Et ça n'est pas nécessairement adapté pour quelqu'un qui a déjà une longue carrière derrière soi dans divers domaines. Donc oui, c'est sûr que l'effectif qui rentre en formation est plutôt un effectif jeune. Par contre, quand il en sort, il est plutôt âgé.
Et il y a aussi beaucoup de filles. Autant de filles que de garçons comme monitrices, non ?
Je ne pourrais pas vous dire de plus en plus de monitrices. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. C'est un sport qui est pratiqué et par des filles et par des garçons.
Oui, bah oui, ce titre.
Voilà, l'effectif des moniteurs de ski alpin est composé aussi bien de filles et de garçons.
Bon, alors, moniteur de ski, vous ne m'empêcherez pas d'avoir une petite pensée pour Michel Blanc, pour le film.
Tout à fait.
C'était toutes les parodies qui ont permis au ski d'être populaire.
Et je pense que cet hiver, encore plus que les autres hivers, beaucoup chanteront sa mémorable chanson en son souvenir.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Vous savez que dans notre petit milieu, c'est un film vraiment, paraît évident, mais plus que culte, cultissime. Et je me suis vu plusieurs fois au départ d'entraînement ou de course de ski avec des coachs, etc. Et on connaît toutes les répliques par cœur.
Bah, bien sûr.
Donc ça fuse sans arrêt.
Oui, on se devait d'avoir cette pensée. Hein. Bon, alors, notre ami Samir, alors lui, quand même, double trajectoire. Vous êtes marocain, c'est ça, d'origine ?
Alors, je suis né en France de parents marocains, né marocain. J'ai grandi dans les chambres de Bonne. À Neuilly-sur-Seine. Et quand j'ai dû me séparer de ma famille pour des raisons sociales, j'étais placé dans un foyer. Et là, pendant 3 ans, je partais au ski en classe de neige, colonie de vacances.
C'est bien, c'est bien. Ouais.
Et la fibre du ski était là. Moi, je voulais aller au moment où j'ai appris à glisser, parce qu'auparavant, je détestais, on était mal équipés. C'était la DAS qui nous équipait avec des gants en laine et tout. Et on était mal équipés. Et puis, j'avais froid, c'était lourd, c'était fatigant. Et puis, le jour où j'ai commencé à glisser, je ne voulais plus m'arrêter. J'ai fait que ça. Et après, je suis devenu addict. J'ai fait une classe de neige. Et là, j'ai dit que mon niveau était... En fait, je me suis vu dans le ski à l'opposé de ce que j'étais à l'école. C'est-à-dire que je me valorisais dans le ski parce que être bon en ski à l'époque, c'était un faire valoir en fait. C'était comparé à, bah, j'étais pas très bon à l'école, mais j'étais bon au ski. Du coup, pour moi, c'était important.
Bah, bien sûr.
Et puis après, j'ai eu ma fléchette en CE2. Et c'est quelque chose. À l'époque, quand tu avais ta troisième étoile et ta fléchette, c'est pas la même troisième étoile et flèche qu'on a maintenant. Hein.
Ouais.
C'était vraiment quelque chose.
Mm-hmm.
Et du coup, on m'avait envoyé pour faire des skis open. Et puis, mon père m'a dit non, tu vas pas. Après, on est revenu, on a déménagé, on est revenu. Bon, bref, et on est parti à Colombes, 10 ans sans skier. Et entre-temps, il y avait Albertville en 92.
Oui.
Et c'était soit Club Dorothée, soit les dessins animés, soit Albertville. Et moi, j'ai pas lâché une seule seconde les JO d'Albertville. Et là, j'ai vu tous les Français, des héros, que je côtoie aujourd'hui, que je me dis, mais attends, c'est mes potes aujourd'hui,
c'est comme nous les journalistes, hein, c'est pareil.
C'est incroyable. J'ai vu le Maroc.
Ouais.
Et là, je me suis dit, un jour, je ferai les Jeux Olympiques.
Ouais. C'est facile après sélectionner dans l'équipe du Maroc.
Alors, c'est pas parce que. Alors, et il faut se retirer quelque chose aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est une nationalité que c'est forcément simple. Parce que malgré le niveau que j'ai atteint pour un gars qui est parti de rien, j'ai eu des bâtons dans les roues administratives, sociales, personnelles. Enfin, bref, ça a été un enfer, un calvaire. Ça a été aussi un rêve, mais dans laquelle la jalousie...
Parce que vous étiez en France ?
C'était entre le... J'étais en France quand je me suis qualifié et tout ça. Enfin bref. Et le mécanisme féodal, le mécanisme féodal au niveau de l'ancien roi du Maroc où tout le monde était imbue de sa personne et où il fallait qu'ils montrent leur autorité m'a fait de moi une cible et une victime. J'écris un livre sur ça.
Oui.
Et je peux vous assurer que ça n'a pas été simple. Et il a fallu que je démontre, grâce à la Fédé française de ski qui m'a soutenu, qui m'a épaulé, à tous les clubs de Savoie, Haute-Savoie, à l'UCPA notamment, pour qui je fais une petite dédicace, qui a été là pour moi à des moments hyper difficiles. Donc c'est un peu l'UCPA, je suis aussi moniteur de ski, j'ai évolué avec eux. Ça a été la plus belle histoire entre sportive, mais aussi une des pires en tant que moniteur stagiaire évoluant avec des moniteurs stagiaires, parce que là aussi il y avait des gamins à l'UCPA, c'est des jeunes qui souvent savent pas où ils veulent aller, qui c'est des jeunes qui veulent évoluer, donc c'est une superbe école, mais parfois leur mental est pas formaté au monde du sport. En fait, ils arrivent là avec un certain ego dans laquelle il est très difficile pour eux d'accepter la rigueur sportive. Et derrière, hygiène de vie. C'est-à-dire que ils sont là, je ne sais pas si tu vas me contredire, mais je le sais, je l'ai vu, et il y en a beaucoup qui échouaient parce qu'ils ne savaient pas se tenir et ils ne savaient pas se mettre une...
une discipline de vie, quoi.
Mais ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'expérience et que l'UCPA, d'un coup, leur apporte quelque chose que eux n'avaient pas. Et je te félicite parce
merci.
Que, franchement, je pense que ta rigueur, ton sérieux et ta passion de la montagne et du ski a fait que tous les acteurs de l'UCPA, c'est-à-dire les formateurs, les entraîneurs, qui sont exceptionnels, franchement, je vous recommande... Si vous n'avez pas trop de moyens, si vous avez un rêve de vivre à la montagne, mais l'UCPA, pour moi, c'est l'une des meilleures écoles. C'est, voire pour la meilleure école de formation.
Bon, je suppose que cela, il abonde, non ?
Je suis flatté et en même temps, il faut noter un petit peu des choses dans ton discours, Samir. C'est que je pense que tu es arrivé à l'UCPA avec une envie, comme je pense j'ai la même actuellement que toi, puisque j'aspire à faire des compétitions et à évoluer dans ce milieu de la compétition. Et il est clair que l'UCPA, Association Loi 1905, reconnue d'utilité publique, vise justement un public de jeunes qui ont envie, non pas spécifiquement d'être moniteur de ski, mais d'apprendre des choses. La rigueur sportive dont tu parles, elle est propre à des compétiteurs. Et forcément, les formateurs dont tu parles et que je salue, qui sont mes formateurs aujourd'hui, peut-être pas les mêmes, mais partagent cette idée qui est de transmettre cette rigueur sportive. Donc c'est sûr que alors, mes collègues de formation ont tous une bonne hygiène de vie et je leur jette pas la pierre. Je pense que ça a beaucoup changé. Je n'étais pas...
c'est quelque chose à laquelle j'ai vécu. Bon, je parle d'un vécu.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Donc, moi qui étais dans la compétition avec une rigueur complètement différente d'une rigueur... en fait, je me suis retrouvé avec des jeunes hyper motivés, mais...
Qu'il fallait cadrer, quoi.
Qu'il fallait vraiment cadrer.
Oui, et
aujourd'hui, les formateurs, ils veulent qu'ils réussissent parce qu'aujourd'hui, obtenir le diplôme de l'UCP, de moniteur de ski, c'est devenu un enfer. Je veux dire, c'est long, c'est hyper technique. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, le gars qui est pas rigoureux et sérieux, il est pas moniteur de ski. Hein.
Bah oui.
Il enchaîne les blessures. Après, il y en a qui ont pas de chance. Hein. Mais et c'est pour ça que moi, je trouve que dans la base de formation de l'UCPA, parce que moi, j'étais en école de ski hein, dans les ESF. Hein, et je sais que moi, à l'ESF, j'avais des stages de 2 semaines. Et puis après, pas de suivi, quoi. Mm-hmm. Alors qu'à l'UCPA, on vous suit de A à Z.
Oui.
Et on vous partage, comme dit Jobéton.
J'abonde dans ton sens, Samir. Voilà, l'UCPA est une formidable école de la vie pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Hein. Mm-hmm. Voilà.
Donc c'est ce qui fait qu'après, on...
Et en fait, grâce à ça, et je le dis,
dans l'équipe
grâce
du Maroc,
à ça, pendant les je me suis entraîné avec tous les clubs. Et l'UCPA, j'ai fait des ouvertures avec Quentin Garnier.
On le salue.
Ouais, il est extraordinaire ce gars-là. Franchement, chapeau. Voilà, c'est des gars comme ça qui te font évoluer. Mm-hmm. Et pour moi, l'UCPA, je les ai dans mon cœur H24. Et j'ai franchement, c'est voilà. Et en termes d'école de formation, pour moi,
donc ça emmène directement.
Et ça m'a emmené
aux Jeux Olympiques.
Ça m'a emmené aux Jeux Olympiques. Pourquoi ?
Parce que quelle année les Jeux ?
En 2010, en géant.
Ah ouais,
Vancouver.
Ouais.
Vancouver. sans compter les autres formation avec Flynn Superski, avec tous les entraîneurs sur place, parce qu'il y a une solidarité. Faut pas croire, le monde du ski n'est pas que de l'individualisme. Le Racing Club m'avait aussi soutenu à un moment donné. Et dans cette histoire, ce qui est beau, c'est que le monde de la compétition n'est pas le monde qu'on veut bien entendre, en tout cas dans les Alpes, qu'on nous dit... Moi, j'ai pas vécu de racisme vis-à-vis des compétiteurs.
Mm-hmm. Bah après, il y a la loi du sport, hein. Il y a la loi du
mais
chronomètre.
On peut,
hein,
mais on peut le dire. On peut le dire que parfois,
ça parle, hein.
le racisme dans les Alpes fait que j'en ai subi du racisme, hein, mais pas dans la compétition.
Mm-hmm.
Pas dans la compétition. Je me rappelle, dans une à l'ENSA, il y avait un Argentin qui me disait « Bougnoul ». Ouais. Il pensait que c'était normal.
Bah, il y a quelques problèmes avec les Argentins, on l'a connu au foot.
Bon,
aussi.
Bref, voilà.
Et
après le ski de fond,
beaucoup,
donc après le ski, après je suis parti dans les écoles, j'ai fini mon diplôme de moniteur de ski il y a 3 ans, juste pendant le Covid. Et entre temps, j'ai eu un autre défi qui était de faire du ski de fond.
Oui.
Parce que j'étais à l'UCPA de Pralognan.
Ouais.
Je voulais me refaire une caisse d'enfer pour refaire les Jeux Olympiques en ski alpin après Vancouver. Et le seul moyen pour moi de m'entraîner et de m'affûter physiquement,
c'était le fond.
C'était le ski de fond. Alors qu'auparavant, je disais que le ski de fond est un sport de naze.
Ouais, c'est pas les mêmes. Ouais.
Et je l'ai dénigré de toutes mes forces. Et le jour où je suis sorti du magasin de location en skieur de fond, je savais pas où me mettre.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu amendes et tu te pardonnes.
Oui,
finalement.
Excusez-moi à tous les skieurs de fond, à tous les fans du nordique, mais à coup de pas, je m'excuse.
Donc, ça a permis de faire les Jeux de Sochi.
Non, j'ai pas fait Sochi, j'ai raté Sochi.
J'avais,
il a fallu, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe du ski de fond au ski du ski alpin au ski de fond, c'est très dur parce que c'est comme si on vous demandait, après 130 km/h sur l'autoroute pendant 5 heures, tout de suite de rouler à 30. Ouais. Et longtemps. Mmh. Je peux vous dire que c'est dur. Bien sûr. Et en fait, ma mentalité d'alpin, parce que en alpin, il faut... On veut la vitesse, on veut la rapidité, on veut que ça arrive tout de suite.
Oui, c'est pas du tout le même.
En ski de fond, si tu fais ça, t'es crevé au bout de quelques tours. Ouais. Et puis j'ai commencé à faire un tour.
C'est comme un
tours.
Coureur de 100 mètres et puis un coureur de 10 000. Hein. C'est pareil.
Exactement. Usain Bolt ou Elguer Rouge.
C'est pareil.
Et ben du coup, l'UCPA aussi a été là. Et était bien là avec Valseny, avec Philippe Merckx. Et puis il y a eu là aussi une solidarité extraordinaire. J'ai fait une saison à Mout. Pareil, tout ce qui est Team France, ils ont été là, ils m'ont soutenu, les équipementiers.
C'est notre ami Guy qui est à Mout, non?
Guy Forget.
Le champion de combiné nordique, champion olympique.
Fabrice Guy.
Voilà.
J'étais là-bas. Et ça a été extraordinaire, je veux dire. Par contre, à Mout, ça a été compliqué.
Hein. Il fait froid. Hein.
Pour un Marocain, c'est...
Ouais, il fait froid.
Et puis j'ai réussi mes qualifs en Nouvelle-Zélande et puis en Suède. Vraiment, je me suis... J'ai découvert des douleurs insoupçonnable.
Et alors aujourd'hui, dans le domaine du ski, des
alors,
activités
aujourd'hui,
ou alors, bon,
je suis prof de ski pareil, indépendant alors,
ouais,
donc, à Courchevel. Donc j'avais fait mes armes à l'ESF de Courchevel quand j'ai commencé. Vous vous en souvenez, quand le Maroc m'avait démonté, voilà, j'étais à ramasser la petite cuillère, hein, après les Jeux de Turin. J'étais perdu. C'est mon coach qui m'a dit, Samir, va à Courchevel. Donc j'ai fait 4 ans là-bas. C'est là où je t'ai dit, en termes de suivi, c'est compliqué. Alors que quand je suis tombé à l'UCPA, ça a été le jour et la nuit. Quoi. C'est-à-dire, il y a eu un suivi, machin, tout, il fallait s'entraîner. C'était extraordinaire.
Ouais, comme quoi, c'est une belle histoire quand même. Hein.
Là, maintenant, je suis très impliqué dans le social. Je suis le parrain de gamins des quartiers. Par exemple, il y a un an et demi, j'ai fait partir 35 enfants au ski de Saint-Denis, Pleyel.
C'est bien.
En dessous de Pleyel. Avec avec les Alpes, solidarité des institutions alpines qui mettent dans ces projets. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis technicien de maintenance dans les hôpitaux quand j'en ai envie. Puis là, en fait, je travaille sur des projets d'entrepreneuriat. Et puis j'ai été nommé récemment, c'est très frais, ambassadeur du Va'a Tahitien. En Afrique.
Ah, d'accord.
Donc je vais partir à Tahiti.
Bon, c'est une forme de ski, c'est le surf.
ils veulent profiter de mes connaissances et mon réseau international et africain pour développer leur pour faire que le VAA devienne discipline olympique.
Ah bien, d'accord. Eric, donc les principales compétitions. Alors quand on prend une licence dans un club, ça coûte cher?
Alors ça coûte. Ça coûte un prix, hein, on va pas se le cacher.
De toute façon, le
ski est un sport qui est cher.
C'est-à-dire, la licence, ça coûte combien?
Une licence, suivant la catégorie de licence, suivant l'assurance que vous souscrivez, etc., ça va être autour de 100-150 euros, grosso modo.
À l'année,
ce qui n'est pas énorme. Après, il y a la cotisation au club, évidemment, qu'il faut
et
verser.
Et il y a surtout le matériel.
Et il y a surtout deux chapitres qui sont très importants, le matériel et les remontées mécaniques. C'est vrai que ça... C'est là qu'on laisse beaucoup de sous. Et notamment au niveau du matériel, alors il y a deux cas de figure très différents entre les jeunes et les adultes. Hein. Le matériel adulte coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et quand on passe de la catégorie jeune à la catégorie adulte, parfois les parents ont un petit peu de mal à comprendre que quand un ski grandit de 10 cm, d'un seul coup, le prix est multiplié par 3, parce que ce n'est pas du tout la même construction de matériel. Et donc les skis jeunes ne sont pas très chers, mais il faut les changer quasiment tous les ans. Donc c'est un budget. Le matériel adulte, lui, est plus cher, mais dure plus longtemps. Alors c'est vrai aussi qu'à ce niveau-là, la notion d'appartenance à un club a son importance parce que on peut avoir un petit peu quand même des tarifs sur le matériel, ça reste cher, mais on a quelques petits coups de pouce. Et puis ensuite, il y a tout le système des bourses d'échange, des reventes d'occasion entre membres d'un club, etc., qui permet de limiter un peu
le change de matériel.
Voilà, exactement.
Et dans les entreprises, il y a des prix préférentiels?
Chez les fabricants et tout ça, vous voulez dire?
Oui, oui, oui. Est-ce qu'à travers son entreprise, on peut peut-être payer un petit peu moins cher?
Alors ça, ça arrive. Il y a des, oui. Il y a des entreprises qui abondent un petit peu par rapport aux licenciés de leur propre club. Ça devient quand même de plus en plus rare. Ouais. Savoir qu'un peu partout, on serre les budgets. Et il y a pas mal d'entreprises qui, avant, étaient très généreuses et qui, maintenant, ont un peu réduit la voilure, malheureusement, parce que faut faire des choix. Quoi.
Quelles sont les épreuves les plus importantes donc, dans une saison là, si on veut s'inscrire? Alors, on rentre dans un club donc, francilien, parisien. On s'inscrit. Comment ça se passe après pour les compétitions?
Alors, comment ça se passe? On a, nous, au niveau de la région parisienne, on a d'abord un circuit de compétition qu'on organise nous-mêmes, qui s'étale sur toute la saison. Et on a, sur l'ensemble des clubs de la région parisienne, on organise à peu près une quarantaine de compétitions sur une saison. Donc, quand même pas mal. Oui. On se donne du boulot, hein, on se bouge et on arrive à faire des choses. Sur cette quarantaine de compétitions, il y en a, je dirais, 35 à peu près qui sont de l'alpin et à peu près 5 qui sont du nordique. Mais donc ça fait quand même un certain nombre de courses que les clubs organisent. Et après, voilà, suivant.
Alors il faut faire les déplacements. Ça coûte de l'argent aussi.
Il faut faire les déplacements et ça coûte de l'argent. Et c'est aussi.
Il faut y aller en voiture. Il y a les hôtels, les hébergements.
Voilà,
coûte de l'argent.
Et puis on se promène avec beaucoup de matériel parce que la plupart du temps, par exemple, sur un week-end de course, on va avoir au moins deux épreuves, par exemple un slalom et un géant. Donc il faut une paire de skis slalom, une paire de skis géant, le casque, la combinaison, la dorsale, etc. etc. Au passage, on va passer une petite dédicace à la SNCF qui a décidé de limiter le volume des bagages à partir de l'hiver qui arrive. Ça va être compliqué pour les skieurs. Ça va être très compliqué pour les skieurs. Franchement, c'est un vrai sujet sur lequel on réfléchit parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, sinon, c'est le déplacement en voiture, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça à faire et c'est là que les clubs ont leur importance, notamment par rapport au public jeune qui doit être accompagné, évidemment, qu'on peut pas laisser en autonomie. Et donc, une grosse partie de notre boulot à tous, c'est justement d'organiser ces déplacements, de cadrer tout ça, de trouver des réservations, de gérer un transport, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai gros boulot à ce niveau-là. Mais un skieur qui est volontaire, qui a la possibilité de faire ça en fonction de sa vie, qu'elle soit scolaire, étudiantine ou professionnelle, pendant toute la saison d'hiver, il peut partir faire des courses tous les week-ends. Il y a des courses tout le temps, parce qu'il y a les courses organisées par les clubs parisiens, mais il y a aussi les autres courses auxquelles on peut évidemment s'inscrire. Et donc, on peut très
bien... Et après, il peut être repéré par des grands clubs beaucoup, et puis voilà, c'est le début d'une carrière. Quoi.
Alors, éventuellement, ça peut fonctionner aussi. Et puis surtout, on peut continuer sa trajectoire de différentes manières. Alors, le monitorat en est un exemple.
On va parler de la formation tout à l'heure. Ouais.
Mais il y a plein de débouchés possibles à ça. Et d'ailleurs, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Samir précédemment. Alors d'abord pour lui passer un petit message parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai discuté avec une dame qui connaît bien qui s'appelle Martine Chalcha, qui a eu l'occasion de l'emmener à droite à gauche sur les
vous
pistes. Mais bien sûr, mais c'est un tout petit monde, hein, vous savez, tout le monde connaît tout le monde. C'est pour ça, faut pas faire de bêtises, hein, parce qu'on est vite repéré. Et qui m'a dit, Samir, c'était un gars, j'ai jamais vu un gars avec une volonté pareille. Il n'y avait pas moyen de l'arrêter, quoi. Il aurait pu remonter la pente le soir à 23h pour faire une descente de nuit, il l'aurait fait. Donc,
ça a été fait, hein.
Donc j'imagine. Donc, tu vois, Martine, elle se souvient de toi bien des années après. Ouais. Et puis, je voulais rebondir aussi sur un autre aspect de ce qu'il a dit, c'est quand il a parlé de solidarité et d'accessibilité, moi je dirais ça aussi, des champions de ski. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même ambiance qu'on peut trouver dans des sports très très populaires, comme le football par exemple, où on voit des champions qui sont très loin. Moi, j'ai toujours du mal quand je vois ces jeunes qui sont des fans, qui se massent devant les grilles, et puis les gars, ils passent à 50 mètres avec les écouteurs sur la tête éventuellement, etc. Dans le ski, on est vraiment très très proche. Et moi, ça m'est arrivé très souvent que sur des stages d'entraînement, on se retrouve avec Alexis Peintureau, avec Tessa Borlée, etc.
Pour les quelques skieurs et skieuses qu'on a croisés, c'est vrai que ce sont des sportifs très accessibles.
Très accessibles, et c'est vrai que pour un gamin de 12 ans ou quelque chose comme ça, quand vous remontez, quand vous prenez le télésiège avec Peintureau, Mais c'est, c'est l'aventure de l'année, quoi. donc c'est vrai que c'est ce genre de petits privilèges, nous, qu'on arrive à générer assez facilement, assez naturellement, avec cette proximité, quoi.
Allez, une petite pause musicale, et puis ensuite, on rechausse les skis. On y va.
On y va.
Voilà, cette émission, bah, vous pourrez la retrouver très rapidement donc, en podcast. Eric, il y a la formation qui est faite par le comité départemental, hein, dans tous les domaines, dans tous les métiers, certains métiers comme traceur, par exemple.
Alors, il y a des formations de la fédération, effectivement, qui existent, oui, et auxquelles, dans lesquelles les comités sont partie prenante. Donc, il y a notamment la grande famille des moniteurs fédéraux, qui sont des gens qui peuvent enseigner le ski en club. uniquement en club, hein, contrairement aux moniteurs professionnels, et qui sont des bénévoles. Il y a les traceurs, par exemple, qui s'occupent effectivement de tracer les slaloms ou les géants ou autres. Donc c'est un métier, enfin c'est un métier, c'est du bénévolat encore, hein, mais c'est quelque chose de très précis. Il faut savoir que le ski, c'est un sport très très normé. Il y a des normes sur absolument tout, sur les dénivelés, sur les nombres de portes, sur les distances entre les portes, en fonction des catégories d'âge, en fonction éventuellement des sexes. Il y a des normes sur le matériel, des longueurs de ski, des rayons de courbe, etc. Donc forcément, qui dit normes et technicité, forcément, il faut qu'il y ait des formations en face. Et donc, il y a effectivement, par exemple, ce genre de formations qui sont organisées au sein de la fédération avec l'appui des comités pour être moniteur fédéral, pour être traceur.
Alors, j'ai vu sur votre site internet, juge de compétition, moniteur entraîneur fédéral, accompagnateur de club, traceur chronométreur.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Toutes ces formations existent. Alors après, ça dépend un petit peu du fonctionnement des clubs et aussi des budgets, parce que par exemple, chronométreur ou traceur, avoir la compétence, c'est bien, mais après, il faut avoir le matériel. Je veux dire que tout simplement, un traceur, s'il n'a pas des piquets et une perceuse, il ne sert à rien. Et un chronométreur, s'il n'a pas une installation de chronométrage, c'est pareil, il ne sert à rien. Donc très souvent, on fait aussi appel, ou plutôt appel à des structures qui existent sur les stations, qui peuvent être par exemple le SF, qui peuvent être le club des sports local, etc., avec lesquels on conclut un échange et qui peuvent se charger par exemple du chronométrage et de ce genre de choses. Et pour ce qui est du corps arbitral, hein, donc les juges, les arbitres, etc., c'est pareil, c'est des formations qui sont organisées, qui permettent alors d'une part de s'impliquer dans le déroulé des courses, et d'autre part, qui permettent aussi de bien comprendre toutes les règles qu'il y a dans les courses de ski, parce que là aussi, il y a beaucoup de règles très particulières.
Alors justement, je voudrais qu'on parle aussi de ça, la sécurité, il faut apprendre, parce que souvent, il y a des accidents de ski, il y a des gens qui vont un peu plus loin que les endroits où ils devraient aller.
Tout à fait. Alors ça fait partie des messages qu'on s'efforce de porter en permanence. Ouais. Il y a d'une part l'aspect, évidemment, comportement, hein, pas ce qui est au-dessus de ses moyens, pas ce qui est n'importe où, n'importe quand. Une pente qui est très praticable et très sympathique le lundi, elle peut être très dangereuse le mardi, voire entre le matin et l'après-midi, ça peut changer du tout au tout. Et puis, il y a la condition physique quand on arrive sur les pistes, évidemment. Il ne faut pas se lancer sur la face de Bellevard pour les amateurs si on n'a pas un minimum de cuisses et de souffle, hein, sinon on risque de souffrir, voire de se faire mal. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi le matériel, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon matériel, en bon état. Et là aussi, il y a tout un tas de normes qui existent pour la compétition, mais également pour le loisir. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, parce qu'on peut, en ski, c'est un super sport le ski, hein, mais c'est vrai qu'on peut se faire mal, et encore pire,
ça peut être un sport dangereux.
On peut faire mal aux autres.
Oui, c'est un sport dangereux.
On peut le considérer
comme sport à risque, dangereux.
C'est un sport qui a une part de danger. Ouais. Hein. Il y a plus dangereux que le ski, bien sûr, mais c'est pas de tout repos. Et c'est vrai que selon les disciplines, mais on prend quand même un certain nombre de risques. Je dirais que le premier message, en tout cas moi, que j'essaye de passer en priorité aux jeunes qui sont avec moi, c'est prenez le moins de risques possible et surtout ne mettez pas les autres en danger. Mm-hmm. Parce que faut bien être conscient que on est jeune, on skie bien, on a un bon niveau, mais sur la piste il y a aussi, pour employer plus une terminologie qui serait la sienne, des pépés et des mémés qui vont un peu moins vite, hein, et ils ont le droit de vivre aussi, ils ont le droit de skier aussi. Donc il faut savoir s'adapter à toutes ces circonstances.
Alpes 2030, messieurs. Donc ça arrive très vite, ça va être un immense événement. Est-ce que Samir, vous qui avez été un athlète de haut niveau, vous allez vous y investir? Je sais que vous connaissez bien Vincent Jay, qui va peut-être prendre le comité d'organisation, peut-être.
Je vais m'y investir, mais peut-être pas dans le sens où vous pensez. Peut-être m'y investir, oui, effectivement. J'y réfléchis, je suis en train de travailler dessus, mais c'est la surprise.
Ah, d'accord, ok, bon, ouais, c'est la
surprise. Mais dans tous les cas, je vais m'y investir, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau structure, parce que je compte créer une structure handiski marocaine.
Ah bien, faudra nous en reparler. Hein.
Avec un grand plaisir, ce serait la première équipe handiski africaine.
D'accord, ok. Ça serait pour les Paralympiques alors.
Ce serait pour les Paralympiques. Et puis, je suis comme pour Paris 2024, hein, à donf derrière la France, et puis
Puis tous les pays qui sont rassemblés, c'est une merveille, ces Jeux Olympiques, c'est une chance qu'on a.
Alors justement, ça va faire le lien. Les Jeux de Paris, vous les avez vécus comment, vous, l'homme des Jeux d'hiver?
Bah, dans le cadre de mon management, mon MBA en management du sport que j'ai fait à Paris, puisqu'il faut bien se reconvertir parfois et puis travailler sur d'autres projets. Et ben, j'ai fait un MBA en management du sport à l'ESG. Ouais. Et du coup, j'ai mis, en fait, j'ai lié mon expérience, ma vision, mon réseau à une espèce un cadre de scolaire, c'est-à-dire comment on fait un projet, comment on le met en place, marketing, machin. Et j'avais travaillé sur le stade Yves du Manoir. Donc à Colombes, il fallait que j'identifie un projet.
Il y avait le hockey sur gazon là-bas.
Il y avait le hockey sur gazon. Et en fait, dans le cadre de l'agenda 2020, c'est-à-dire 20 recommandations plus 20 autres recommandations, parce qu'il voulait, le CIO avait décrété en 2014 la fin du gaspillage, la fin de la gabegie écologique, économique et tout ce qu'on veut, pour faire des jeux écologiques, équitables et viables dans l'avenir, avec un héritage olympique qu'on appelle. Et Stade Yves du Manoir à Colombes, il n'y avait pas de dossier à Colombes. Et le Stade Yves du Manoir qui avait accueilli les Jeux Olympiques avec, en 1924, qui avait accueilli la Coupe du Monde de foot avec Basile Boli qui était là.
Basilou.
si, c'est ça. Et le Brésilien. Enfin bref, il y a le rugby qui est venu, il y a l'athlétisme. Il fallait faire de ce stade un stade qui renaît tel le phénix de ses cendres. Et on en a. Et puis on a fait. Le département a soutenu ce projet avec de Bédjan, avec le maire de Colombes qui s'appelle Nicole Gotin à l'époque. Et puis, ils ont retenu ce stade. Et il y a énormément de projets. On a décrié les Jeux 2024, Paris 2024, pendant des années, parce qu'on leur disait, on leur prévoyait, de ces Jeux une catastrophe, un échec social, écologique, tout ce qu'on veut. Tony Estanguet, il a été royal avec son équipe. Ça a été. Et puis, les Français, on sait très bien qui ils sont.
Alors
ils gueulent, et derrière.
Oui, bien sûr.
Ils sont là, ils gueulent, mais derrière, ils sont là quand il faut. Enfin, je veux dire.
Alors justement, ces jeux, on en a beaucoup parlé sur notre antenne. On a fait des émissions de résumé, des émissions de bilan. Et pour la suite, maintenant, on parle de l'héritage, Vanessa. Et tu as eu l'occasion d'assister au Conseil de Paris, qui a justement parlé de cet héritage avec des personnes qu'on connaît bien, Madame Hidalgo, Pierre Abadan, et puis...
Frédéric Vigneroux, capitaine de l'équipe de France de cécifoot, et on les a rencontrés.
Qui est devenu véritablement célèbre maintenant.
Oui, tout à fait, oui.
Ouais. Donc, on les écoute, on les a rencontrés, on les écoute.
Exactement.
Toute mon admiration, à la fois pour l'équipe de cécifoot, l'équipe nationale de cécifoot, qui nous a enchantés, qui nous a fait vibrer, et qui pour moi est très très symbolique de tout ce qu'on avait voulu faire, de toute l'énergie, de tout l'idéal qu'on avait mis dans la fabrication de ces jeux, avec Tony Estanguet qui a dû repartir, avec bien sûr Marie-Amélie Le Fur, avec l'État, parce qu'on n'aurait jamais pu faire tout ça sans notamment les deux préfets de police et préfets de région qui étaient là ce matin. Je remettrai aussi la médaille à Michel Cadeau, qui a été le délégué interministériel des Jeux olympiques et paralympiques, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et à David Lapartien pour le CNOSF, qui lui aussi le mérite bien. Avec Pierre Rabadan, avec toute mon équipe, on voulait vraiment aussi mettre les sportifs à l'honneur, parce que d'abord, le sport et les Jeux olympiques et paralympiques, c'est pour les sportifs. Et pour nous, l'équipe de cécifoot était sans doute la plus emblématique de tout ce que les valeurs de l'olympisme peuvent représenter. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont donné de la joie, ils nous ont donné des émotions incroyables. Je crois que vraiment, et je l'ai dit à Marie-Amélie aussi, sur la question des personnes en situation de handicap, là on a franchi, mais je pense, une étape très importante. Avant les Jeux, je disais souvent à mes interlocuteurs qu'on allait vivre un choc culturel avec ces Jeux et avec les Jeux paralympiques. C'est ce que vous nous avez fait vivre, et ça méritait quand même cette médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. C'est une médaille que l'on donne à des personnalités qui résonne avec les valeurs de notre ville. Notre ville est une ville humaniste, c'est une ville qui porte depuis toujours les valeurs d'inclusion, les valeurs républicaines, et cette médaille est chargée en symbole, mais elle marque aussi un lien très très fort entre les personnes à qui on la remet et la ville de Paris avec toute son histoire. C'est une ville lumière, pas simplement parce qu'il y a des jolies lumières, c'est une ville lumière parce qu'il y a la lumière de la pensée et la lumière de l'humanisme qui continue à vivre. Et c'est ce que vous avez fait vivre pendant les Jeux. Donc merci à vous. Mais c'est eux qu'il faut interviewer, hein, c'est pas moi. Moi, maintenant, je m'efface et c'est eux qui parlent.
Qu'est-ce que quand on passe, quand on parle d'héritage, on est-on des...
Alors, j'ai eu la chance d'avoir ce matin une réunion avec le président de la République, hein, où on a évoqué tous les deux l'ensemble des sujets d'héritage. Donc, on est très en phase, hein, je peux le dire et je ne vais rien trahir, sur l'héritage matériel et immatériel de ces Jeux. Donc, on reviendra vers vous, mais vraiment une grande convergence de vues entre le président de la République et moi-même, parce que vous savez, je crois qu'il a été aussi très fier de sa capitale, la capitale de la France, et de l'image que l'on a pu donner à l'étranger. Et on a pu avancer sur beaucoup de dossiers, mais on y reviendra, voilà, tranquillement, puisque c'est une œuvre commune sur laquelle d'ailleurs les deux préfets, hein, préfet de police et le préfet de région, sont missionnés pour avancer avec nous sur la traduction de l'héritage.
La Tour Eiffel a été un symbole de ces Jeux. Est-ce qu'elle doit être classée monument historique ?
Alors, je ne vais pas vous répondre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet des Jeux et c'est une question d'actualité sur laquelle on va revenir. Je pense qu'on protège très, très bien la Tour Eiffel et aujourd'hui, personne... D'ailleurs, elle a brillé de 1000 feux pendant les Jeux et la ville de Paris est très attentive à sa Tour Eiffel. Mais poser des questions aux athlètes parce que les vedettes, c'est eux, ce n'est pas moi. Voilà. Alors, je ne vais pas parler du Conseil de Paris, d'accord ? Là, on est sur les Jeux Olympiques. Et donc, non, vous me connaissez, j'ai quelques heures de vol maintenant. Donc, je ne répondrai pas à ça parce que ce n'est pas le moment. Et ce dont je souhaite, enfin, ce que je souhaite qu'on mette en valeur, c'est vraiment leur engagement à eux. Voilà. Donc, allez-y, profitez-en, parce qu'ils sont devant vous et ils ont plein d'ambition.
Ils vont répondre à votre question.
Voilà.
Madame la maire, comment avez-vous pris le fait que le président de la République n'est pas plongé avec vous dans la scène ?
Oh ben, vous savez, le préfet de région qu'il représentait a plongé. Et puis, surtout l'année prochaine, on va pouvoir se baigner, puisqu'il y aura 3 points de baignade dans Paris, hein, au pied de l'Hôtel de Ville, près de la Statue de la Liberté, au bras de Grenelle et vers Bercy, dans le 12e arrondissement. Donc voilà, moi je prends tout très bien. Vous savez, je suis une pragmatique. Hein, donc voilà.
Un mot sur la mission que vous avez confiée à M. Rabadan.
Ah oui. Ah oui, mais c'est lui qui va parler de sa mission, non ?
On en a déjà parlé, mais bon. Vous, quelle est la lettre que vous lui confiez en fait ?
Donc j'ai confié à Pierre Rabadan le soin de travailler sur l'héritage des Jeux pour Paris. Héritage matériel et héritage immatériel. Il y a beaucoup de choses déjà, hein, qui sont lancées. Par exemple, vous le savez, sur les statues, les fameuses belles statues des femmes, nous avons pris la décision de les réinstaller, notamment à la porte de la chapelle, pour venir terminer, en tous les cas, accompagner toute la transformation de la porte de la chapelle qui a pu se faire grâce aux Jeux. Il y a tous les stades et les piscines qui avaient déjà été rénovés pour les Jeux. Je pense à Coubertin, je pense à la piscine Georges Valeret. Il y a un stade de Cécifoot aussi, hein, qui a été inauguré, mais c'était avant les Jeux. Donc on va pouvoir y refaire quelque chose dans le 14e arrondissement et j'espère qu'on pourra compter sur vous. Et beaucoup d'autres choses. Mais Pierre a la mission donc de coordonner au sein de la ville tous les adjoints qui travaillent sur plein de sujets mais qui doivent être évidemment coordonnées pour que l'héritage des Jeux soit un bel héritage. Vous savez, dans l'héritage des Jeux, il y a aussi l'esprit des Jeux. Vraiment, c'était quand même tellement magique. Beaucoup de gens me disent « Ah, mais c'était une parenthèse enchantée, vite, vite, on la referme ». En général, c'est ceux qui ne voulaient pas ouvrir la parenthèse. Et donc, nous, on a envie de dire « Non, quand même, il s'est passé des choses très fortes ». Là, les Français, les Parisiens, tout le monde a vibré de façon très fraternelle. Et ça, il va falloir qu'on le garde. On a eu plaisir à se rencontrer, à se mélanger, à se frotter, en fait, avec des gens très, très différents. Et c'est aussi l'esprit de Paris, ça. Donc, nous, on a envie de poursuivre tout cela. Et donc, ça fera partie aussi de l'héritage immatériel sur lequel Pierre va plancher et sur lequel on reviendra régulièrement au Conseil de Paris pour faire voter, parce qu'on est une démocratie. Donc, on fera voter toutes nos décisions. Pierre, vas-y.
Non, non, mais tu as tout dit. Je réfléchissais à quel moment j'allais pouvoir dormir avant de faire tout ça.
Non, mais, c'est fini.
Non, c'est évidemment une boutade. Oui, il y a beaucoup de travail, on a appris beaucoup. Évidemment, on avait, dans le concept des Jeux, déjà fait en sorte qu'au début de l'événement, on ait un héritage qui soit déjà concret et utile pour les populations qui reçoivent les Jeux. Il s'est passé un événement, des événements, avec les Jeux Olympiques, puis les Jeux Paralympiques, je crois, au moins à la hauteur de nos ambitions, voire peut-être plus. Et elles nous disent quelque chose aussi du vivre ensemble, qui va au-delà du matériel, de peut-être une manière de travailler aussi. Peut-être, j'espère, je le crois, en tout cas, on a appris des choses aussi sur notre fonctionnement individuel et collectif. Et c'est de ce travail-là dont j'ai la charge, avec beaucoup de responsabilité, mais aussi de fierté, pour essayer de continuer à apprendre et à faire que notre ville, notre pays et ceux qui le composent vivent bien ensemble, voire mieux que ce qu'en était le cas avant les Jeux.
Et en matière d'accessibilité, on a beaucoup travaillé avant les Jeux, hein, sur dans nos quartiers, sur des équipements. Par exemple, il y a des stades ou des piscines maintenant qui sont en accessibilité universelle. Je pense à Pierre de Coubertin ou je pense à la piscine Valray. Et là, on a défini un standard nouveau, hein, qui doit être le standard qui s'applique partout. On a aussi, dans 17 quartiers de Paris, travaillé sur ce qu'on a appelé l'accessibilité augmentée, en intégrant les commerces, tous les équipements publics, les bibliothèques, les gymnases, les écoles, les parcs, les squares, dans cette accessibilité universelle. Et c'est aussi un travail que l'on va poursuivre maintenant. Je pense que les Jeux et les Jeux paralympiques nous auront vraiment permis aussi et montré l'intérêt, l'importance, la qualité de vie dans une ville lorsque son espace est propice à des rencontres et ne pose pas de barrières, voilà, dans lesquelles on fait tomber les barrières et dans lesquelles il y a de l'inclusion. Et quand on travaille de cette façon-là, on aide tout le monde à vivre mieux, des enfants aux personnes âgées, les personnes en situation de handicap, tout un chacun. Je crois qu'on a appris finalement que la qualité de vie, c'était aussi quelque chose de très important qui devait nous motiver et que ce n'était pas des mots étrangers aux décisions des politiques, bien au contraire. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va continuer à faire.
Mais ce qui reste aujourd'hui, après ces semaines un peu qui se sont écoulées, de ce qu'on a vécu là, ça...
De la reconnaissance de l'État, comme aujourd'hui. D'être reçu à la ville de Paris, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un moment honorable, c'est un moment important pour nous, parce que ça marque quelque chose de... Voilà, on a réussi à amener de la joie, un moment de partage avec les supporters. C'est ce qu'on en voulait. Il y avait de faire une médaille, c'était bien, mais de sensibiliser les gens, c'était une seconde bataille. J'espère qu'elle va pouvoir continuer cette bataille, parce qu'elle est loin d'être gagnée. Mais voilà, on a déjà commencé à faire tomber les barrières, et maintenant, il faut continuer. Donc maintenant, à nous, dans chaque région, dans chaque ville, de porter cette parole. C'était un moment important pour nous d'être reçus ici.
Et justement, de recevoir cette grande médaille vermeille de la ville de Paris, qu'est-ce que ça vous fait à toute l'équipe ?
Bon, en tout cas, pour moi, et je pense au nom de l'équipe, voilà, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance du sportif, mais surtout du citoyen. Le citoyen qui a montré une belle image de la France et de la ville de Paris.
Merci beaucoup.
Et justement, comment on peut avancer encore plus sur l'inclusivité?
Voilà, l'inclusivité, l'inclusion, en fait, compte, il y a beaucoup de choses encore à mettre en place. Moi, je sais que, en tout cas, de mon côté, ça va être tout ce qui est au sport, par exemple, l'EPS en sport. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui sont éloignés du sport parce que les profs sont pas formés ou peu formés. Il n'y a pas de moyens qui sont mis en place pour aider les enfants. Et souvent, le sport, c'est la deuxième ou la troisième. C'est le troisième niveau. C'est pas comme le français, comme les maths, où c'est pas la priorité. Et donc, on les met de côté ou on les envoie sur la rééducation. Et pour moi, le sport a des grandes valeurs. Déjà, de confiance en soi. Une personne qui a confiance en soi, déjà on a gagné. Je vais pas dire 80%, mais là, déjà, on a pas mal gagné. Et maintenant, voilà, c'est de pouvoir rendre... Il y a une loi qui dit que l'inclusion des enfants dans le sport, à l'école, c'est obligatoire, c'est qu'ils sont obligés. Mais aussi, c'est pourquoi un enfant ordinaire a droit de pratiquer du sport à l'école et pourquoi un enfant en situation de handicap, c'est au bon vouloir. Et pour moi, ça doit être une obligation.
Voilà. Justement, quand vous rencontrez des enfants, vous les avez rencontrés pendant ces Jeux, qu'est-ce que ça vous a procuré? Parce qu'ils étaient extrêmement admiratifs, moi je les ai vus. Vous, qu'est-ce que ça vous a procuré? Et c'est aussi par eux que peut passer le changement de regard.
C'est ça, comme on disait, en fait, moi, c'est nos futurs citoyens. Donc voilà, si on peut passer à la nouvelle génération des mots importants, des manières, des valeurs, et ça, je pense que c'est... montrer que voilà, on est certes en situation de handicap, mais on a des savoir-faire, on a des savoir-être, et voilà, c'est, je pense, ils vont avoir qu'une belle image. Et donc peut-être dans la rue ou dans leur futur travail, quand on va parler d'une personne en situation de handicap, ils vont se rappeler ce moment. Pourquoi pas, moi ça me dérange pas d'employer cette personne. Et voilà, on sème des graines. Certes, il n'y aura pas toutes les graines qui vont fleurir, mais je pense qu'il y en aura déjà pas mal. Et le peu qui auront fleuri, ça sera des belles plantes, on va dire, des belles fleurs.
Et dernière question, parce que j'ai envie de vous dire, finalement, pourquoi même ne pas faire... Il y a beaucoup de disciplines qui sont aujourd'hui ouvertes à tous, les disciplines handisport. Il y a aussi des personnes, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, valides, qui peuvent venir les pratiquer. Je vous donne l'exemple, par exemple, du volley assis que tout le monde peut pratiquer. Le cécifoot, il y a beaucoup d'initiations aussi. Mais c'est peut-être aussi ça, la clé de l'évolution dans les années à venir.
Oui. De toute façon, petit à petit, et heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas comment dire, on est un pays riche. On a des médecins qui peuvent soigner différentes maladies, que ce soit moteur ou visuel, voilà. Donc on a cette chance, mais on a cette malchance, en fait, compte qu'il va y avoir de moins en moins de personnes en situation de handicap, sauf sur accident, on va dire. Mais voilà, donc c'est pour ça que si on arrive à faire du sport partagé, en parenthèse, voilà, c'est pas ordinaire ou handisport, c'est un sport partagé. Bien. Si on arrive à faire du sport partagé, on arrivera à être citoyen comme monsieur tout le monde. Et je pense que c'est ça qui est intéressant.
Merci beaucoup.
Voilà, ce sont des mots très forts de Frédéric Villeroux. Puis on a pu voir, Vanessa, que l'ambiance, elle était très décontractée avec Madame Hidalgo, Pierre Rabadan et
exactement,
Frédéric Villeroux.
Exactement, hein. La remise de la médaille vermeille de la maire de Paris donc, ouais. À plusieurs acteurs de ces Jeux, Tony Stanguet, Marie-Amélie Le Fur et d'autres. Et l'équipe de France de cécifoot et une ovation, hein, une standing ovation pour l'équipe de France de cécifoot. Ouais. Incroyable. Vraiment, je pense qu'ils ont, comme beaucoup d'athlètes, ils ont été les héros de ces Jeux et il faut encore le saluer. Et superbe échange aussi que j'ai eu avec Frédéric Villeroux. Et on le salue s'il nous écoute.
Ah c'est devenu une star maintenant.
Voilà, exactement.
Frédéric, alors justement, le handicap, hein, les Paralympiques et puis les Olympiques, ça, c'était une même et une seule équipe. Hein, on l'a vécu, nous, sur le terrain cet été. Vous avez beaucoup d'actions aussi, vous, pour l'handiski?
Alors, on a des actions pour l'handiski, effectivement, avec principalement un club de la région qui est très, très actif sur le sujet. qui organise beaucoup de choses à Serre-Chevalier, principalement.
Le pays de Luc Alphand. Hein.
Le pays de Luc Alphand, ouais. Absolument. Avec une piste qui porte son nom et qui oui. est plutôt sympathique, d'ailleurs. Et donc, ils organisent tout le long de la saison des stages, des découvertes, etc., etc., pour les personnes handicapées. Et c'est vrai que c'est une chose qui est assez formidable. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des dirigeants de cette structure. Et c'est vrai qu'ils arrivent à faire découvrir la glisse, qui est un truc qui est formidablement agréable quand on y a goûté. Ils arrivent à faire découvrir la glisse à des gens qui, a priori, en auraient été privés. Que ce soit, par exemple, des non-voyants pour faire du ski avec un accompagnateur, un cornac qui se charge de les diriger, ou que ce soit, par exemple, des gens qui sont en situation de handicap sur les membres inférieurs, qui peuvent faire du ski fauteuil. Donc, d'abord, évidemment, en étant piloté par un professionnel qui les promène, en fin de compte, mais ça leur permet de découvrir le plaisir de la glisse. Et puis, éventuellement, un jour, de se lancer tout seul avec l'équipement qu'il faut. Et la deuxième grande source de grande récompense de ce genre de choses, c'est aussi pour les gens valides qui veulent s'investir là-dedans pour devenir justement accompagnateur, encadrant sur ce genre de structure. C'est vrai que c'est une expérience qui est formidablement enrichissante.
Très bien. Allez, on marque la deuxième pause musicale, le journal des sports, et ensuite, on aura notre page foot avec notre ami Stéphane Desenclos.
Vie de tous les sports à travers ses associations, ses secrets, ses coulisses. Retrouvez-la naturellement chaque lundi de 19h à 20h30 dans Mon Paris Sport avec Philippe Carnu et toute son équipe.
Voilà, effectivement, donc tous les lundis soirs, émission complètement omnisport, on va le voir encore avec l'abondant journal des sports d'Alexandre.
Absolument, Philippe, on commence toujours... Bonsoir, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté.
Mais tu étais là quand même.
J'étais bien là. Donc on commence ce journal des sports avec les résultats de la 7e journée de Top 14, et ça n'a pas fort du tout pour nos clubs franciliens. Défaite du Racing 92-32-15 contre l'Aviron Bayonnais, et une nouvelle défaite pour le Stade Français 35-13 contre Castres Olympique, la 5e de la saison déjà. Au classement, le Stade Toulousain est leader avec 24 points, suivi par Bordeaux-Bègles 23 points et le Stade Rochelais 22 points. Le Racing est 10e et le Stade Français 13e. En basket, victoire du Paris Basket 102-86 contre Nanterre 92. Vanessa, tu y étais ?
J'y étais, c'était formidable. Ambiance de tonnerre à l'Arena, Accor Arena de Bercy. Les Parisiens ont largement mené tout au long du match. Des fois, il y avait des écarts de 30 points. Nanterre a quand même réussi à revenir vers la fin du match. Mais c'était vraiment un super match et une ambiance à l'américaine. Et Lisa Barbelin aussi, qui a été l'invitée surprise de la mi-temps, la première archère française médaillée olympique. Donc franchement... match incroyable.
Ok, semaine chargée en tout cas pour les Parisiens après leurs deux matchs en Euroleague. Rappel des résultats, victoire 84-80 contre le Panathinaikos mardi, mais défaite 109-107 contre le Bayern jeudi. Au classement de la Betclic Elite, Lyon-Villeurbanne est leader à égalité avec Paris, Saint-Quentin et Gravelines-Dunkerque. Les Nanterrois, eux, sont 13e. En handball, le Paris Saint-Germain a remporté son match du week-end assez aisément contre Chartres 36-26. Créteil renoue enfin avec la victoire, Philippe, après 4 matchs d'affilée sans succès, 26-24 contre Dunkerque. Et la grosse déception, on le dit chaque lundi, mais c'est Ivry qui perd une nouvelle fois, cette fois contre le Cesson-Rennes, 34-28. Les Ivriens sont toujours derniers du classement avec seulement 1 point. Créteil sort de la zone rouge et passe 14e avec 4 points. Et le PSG est leader avec 14 points devant Toulouse et Nantes. Chez les femmes, le Paris 92 a perdu contre Metz 29-23. Les Parisiennes pointent à la 6e place du classement avec 8 points. L'équipe de Brest-Bretagne est leader avec 12 points, à égalité avec Dijon et Metz. En volley, entame de saison difficile pour nos clubs franciliens, puisque Paris s'est incliné 3-0 sur le terrain de Nice et le Plaisir-Robinson signe une nouvelle défaite contre Tourcoing 3-2. Au classement, Montpellier-Tourcoing et Poitiers sont sur le podium. Paris est 11e et le Plaisir-Robinson est malheureusement dernier. Chez les femmes, défaite de Levallois-Paris contre Nantes 3-1. Le club francilien est 6e au classement avec 7 points et 4 points du leader, Nantes justement. En Formule 1, victoire de Charles Leclerc hier lors du Grand Prix des États-Unis. C'est son coéquipier Carlos Sainz qui finit second. Max Verstappen, lui, termine 3e. Pierre Gasly avec Alpine termine 12e et Esteban Ocon finit 18e. Au classement des constructeurs, c'est McLaren qui est leader devant Red Bull et Ferrari. Donc franchement, McLaren qui fait une très très grosse saison et Red Bull qui peut s'en mordre les doigts finalement, parce que de la première fois depuis, il me semble, 2 ans qui ne vont pas remporter le Grand Prix. En MotoGP, c'est l'Espagnol Marc Marquez qui termine premier, suivi de son compatriote Jorge Martin, et l'Italien Francesco Bagnaia sur le podium. Les Français Fabio Quartararo et Joan Zarco terminent respectivement 9e et 13e. Au classement des constructeurs, c'est Ducati qui termine tranquillement sa saison à la première place, 200 points devant son premier vis-à-vis Prima Pravac. L'occasion pour moi de vous donner en même temps les résultats du rallye d'Europe centrale avec la victoire de l'Estonien Ott Tänak, suivi par Elfyn Evans et Thierry Neuville. Au classement des constructeurs, Hyundai Shell est toujours premier, mais à 15 petits points de Toyota Gazoo. On ouvre une petite page olympique, Philippe. Retour sur la performance de Léon Marchand en Coupe du Monde, petit bassin en Chine. Après ses victoires vendredi et samedi aux 100 mètres et 200 mètres 4 nages, avec à chaque fois un record de France et même d'Europe pour le 200 mètres 4 nages, le quadruple champion olympique français a remporté hier le 400 mètres 4 nages avec un temps de 4 minutes et 3 centièmes. Le Toulousain de 22 ans a pulvérisé le record de France de la distance en bassin de 25 mètres. Il s'est imposé devant l'Italien Alberto Razzetti et le Néo-Zélandais Lewis Clairbrut. En triathlon, la championne olympique des Jeux Olympiques 2024, Cassandre Beaugrand, est devenue samedi la première Française à remporter les championnats du monde. Sans oublier évidemment l'excellente performance de la Française Emma Lombardi qui termine elle 3e. Chez les hommes, le Français Léo Berger termine 2e du classement général derrière le Britannique Alexis. Et bonne nouvelle pour les Bleus en paratriathlon également, puisqu'Alexis Anquinquin décroche son 7e titre mondial, 29e course sans défaite pour le Français, et donc victoire dans sa catégorie PTS 4. Bonne semaine pour les Français.
Je voulais juste rajouter la deuxième place de Kevin Imhoff au skate américain, compétition remportée par Ilia Malinin, le champion du monde. Et c'était une rédemption pour Kevin qu'on avait laissé au championnat d'Europe en difficulté. Voilà, mais, pour le signaler.
Mais ça, c'était le patinage artistique.
Ah, patinage artistique,
hein.
Voilà, bien sûr, ça, oui.
Ouais. Et tu termines avec le vélo.
Pareil, avant le VU, oui. Le tennis de table.
Oui. Ah oui, il ne faut pas oublier.
Oui, malgré la défaite de son frère Félix en quart de finale, Alexis Lebrun vient remporter les championnats d'Europe avec une finale écrasante 4-0 contre l'Allemand Benedikt Duda. Bien évidemment, victoire aussi en double des frères Lebrun, 3-0 contre le duo suédois Kalberg-Morgaard. À noter également la médaille de bronze pour notre double mixte Gosi-Pavad. Et on termine justement ce journal des sports avec le piètre bilan de l'équipe de France de vélo au championnat du monde de cyclisme sur piste. Seulement 2 médailles, une en argent et une en bronze. Les Français ne terminent que 12e du classement.
Très bien, on a notre ami Stéphane. Merci à Stéphane d'avoir donc patienté pour cet abondant journal des sports. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir oui. Florent, c'est super intéressant.
Ouais, bah intéressant, donc
super intéressant.
Ouais, ouais. Un petit mot quand même sur cette Ligue des Nations dont on a vu le match et débriefé le match la semaine dernière. Victoire d'équipe de France donc devant la Belgique 2-1. Bon, j'allais dire on est resté dans le traditionnel même si ça a été un petit peu compliqué pour l'équipe de France. Première mi-temps assez décevante hein, et une bien meilleure deuxième mi-temps surtout sur le plan offensif.
Ouais, tout à fait, bah on en avait parlé avant, Philippe. Hein. Oui. Moi, je disais que j'attendais vraiment pas grand-chose de ça, cette période de l'année, avec des deux côtés quand même quelques absents notables. Bon, maintenant, c'est sûr que c'est plus les Belges qui sont dans la galère, là, dans la grosse galère. Le football belge, on a même entendu des Todesco d'émission en fin de match pour les Belges, alors que le football est quand même fou parce qu'il est arrivé à l'Euro. Je crois qu'il est arrivé à l'Euro avec des qualifications à sans faute lors des qualifications. Je crois qu'il demande s'il n'a pas gagné tous ses matchs en arrivant à l'Euro. Puis à l'Euro, déjà, ça s'est complètement délité. Puis depuis, rien ne va plus. Quoi. Mais sinon, pour la France…
Demi-temps complètement différente quand même, Stéphane. Hein,
ouais, complètement, ouais. Voilà, exactement. Bon, après, que dire même avant le match contre Israël, que dire… Ouais. Je ne sais pas, par exemple, on a… Le moins bon des Français, par exemple, c'est un des plus sûrs, c'est-à-dire William Saliba, oui. Qui est un des plus sûrs depuis une dizaine de matchs, hein, qui a fait un euro exemplaire, je crois qu'il est dans l'équipe type d'ailleurs de l'euro, qui est exemplaire à Arsenal, même si là, il a été expulsé, il traverse peut-être une période un peu difficile, qui a fait deux matchs très, très moyens, qui a été très, très moyen contre la Belgique. Donc, que dire,
voilà, que quand, dire enfin, que
je
le
sais
bon.
Pas, avec bon. Lucadine qui joue à gauche alors qu'il est quasiment jamais appelé, il a participé à pas beaucoup de grandes compétitions internationales ces dernières années, donc c'était quand même assez étrange comme match.
Oui, enfin bon, l'essentiel c'est la victoire, hein, donc l'équipe
voilà,
de France,
ouais, ouais.
Donc, qui est deuxième de cette poule, avec 9 points derrière l'Italie, 10 points l'Italie qui a largement battu donc, l'Israël 4-1, troisième la Belgique 4 points, et cinquième donc cette équipe, et quatrième et dernière donc cette équipe israélienne avec 0 points. On jouera ces deux dernières journées de Ligue des Nations au mois de novembre, il y aura un France-Israël je crois le 14 novembre, et puis Italie-France donc le dimanche 17. On passe à la Ligue 1. Donc, huitième journée, bah, ça y est, le Paris Saint-Germain a repris la tête du championnat après sa nette victoire sur Strasbourg 4-2. Dans le même temps, Monaco a laissé échapper des points avec un nul face à Lille 0-0, nul entre Brest et Rennes 1-1, victoire de Lens à Saint-Etienne 2-0, Lyon qui va aussi cartonner au Havre 4-0, victoire d'Auxerre devant Reims 2-1, deux matchs nuls avec 1-1, Nantes, Nice et Toulouse, Angers. Et puis hier, donc, la victoire de Marseille à Montpellier 5-0 qui a coûté donc la place à l'entraîneur des Acariens.
Ben, tout à fait. Ben, comme on cesse d'en parler depuis le début, hein, j'ai pas compté là, mais c'est encore un festival offensif. Hein. Il y a un nombre de buts assez important et c'est tant mieux parce que je l'ai déjà dit ici, je le redis, à un moment où on dit qu'il manque de spectacle, qu'on a du mal à vendre la Ligue 1, etc. etc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a beaucoup de spectacles. Bon, merci quand même à l'OM et puis peut-être aussi à la faiblesse. Mais alors, une équipe comme Montpellier, une équipe de Ligue 1 qui se comporte comme Montpellier hier, ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas vu. Hein.
Oui, c'est vrai que ça fait quelques années où Montpellier il frôle avec la correctionnelle. Hein. Cette année, ça va être très compliqué. Hein. Oui.
Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a eu aussi d'autres équipes faibles, mais quand même hier, c'était, ça touchait le fond du fond du fond, quoi. Je veux dire, et certains ont peut-être fait un peu de, j'ai vu quelques reproches à Laurent Nicolin qui n'a pas attendu, qui a aussitôt et tout, mais moi je dis bravo, quoi. Bravo, quoi. Pour une fois, c'est pas un président de club qui dit qu'il manie la langue de bois, je sais pas, on va se réunir, on va en parler, on va faire ci, on va faire ça. Boum, 10 minutes après, il voit ça et en tant que supporter, premier supporter de son club, il voit ça et il doit être atterré par ce genre de, par le comportement des joueurs et tout. Alors bien sûr, c'est pas uniquement du tout uniquement de la faute de Michel Desacarian. On connaît les problèmes financiers du club, on connaît l'absence de recrutement cet été, la faiblesse de l'équipe. Elle n'est pas la responsabilité de l'entraîneur. Il n'y a pas 3 stars qui sont avec la réserve ou qui sont remplaçants. Je pense qu'il met tous ses meilleurs joueurs, quoi, ou les moins mauvais, quoi. Donc c'est un peu quand on voit le match. Bah après, il y a la psychologie. Quand on voit le match d'Adams hier soir, qui avait fait la saison dernière, je crois, qui avait commencé en trombe la saison. On pensait qu'il était super fort et tout. Là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable de voir ça, quoi.
Donc le classement, donc Paris en tête avec 20 points, plus 17 au goal average. Deuxième Monaco, 20 points, mais plus 10. Troisième Marseille, 17 points, donc c'est bien avant le grand choc entre Marseille et le PSG, donc dimanche prochain. Quatrième Lille, Lens et Reims, 14 points. Septième Lyon, 13 points. Et puis en bas de classement, bah, Toulouse est 15e avec Le Havre avec 6 points. Et 17e, donc on en parlait, Montpellier et Angers avec 4 points. La Ligue 2, ce soir on a 3, le dernier contre le Paris FC, hein, qui est définitivement passé cette semaine sous l'escarcelle Arnaud. On va quand même rappeler le nul du Restart devant Caen 2-2, la victoire de Lorient devant Annecy 4-2, Grenoble qui bat Metz 2-0, et donc Laval qui bat Dunkerque 3-2, ce qui fait que Lorient est en tête avec 19 points, devant le PFC 18 points, Grenoble 3e avec Dunkerque 16 points, 5e Metz, Annecy et Amiens 15 points, et en bas de classement, bah, c'est un petit peu compliqué pour le Restart. Donc 15e avec Caen 8 points, juste devant Martigues donc 5 points, et 18e et dernier 4 points. Est-ce que ça peut être un match piège, le match 3 Paris FC, Stéphane?
Non, je pense pas. Maintenant, si, c'est du foot, hein, donc oui. Tout peut arriver. Maintenant, tout peut arriver, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais moi, sincèrement, il y a une telle différence entre les deux équipes que 3 est certainement moins mauvais qu'il ne l'a montré en tout début de saison. Mais quand même, je ne pense pas, quoi. Je crois que le Paris FC, c'est une grande... C'est une machine qui est lancée vers la montée.
Ils n'ont plus le choix maintenant.
Avec des super joueurs, et je ne les vois vraiment pas, être embêtés à 3. Maintenant, en football, on sait, hein, tout peut arriver en football. Hein, mais bon, normalement, moi personnellement, je ne vois vraiment pas le Paris FC acquitté. Par exemple, par contre, la semaine prochaine, vous avez un Rodez-Lorient, par exemple. Ça peut être un match piège pour Lorient.
Je sais que t'aimes bien Rodez.
Rodez va beaucoup mieux, parce que Rodez a des qualités de combativité, donc ça peut être un match un petit peu piège pour Lorient. Mais là, 3-3.
Quand se ferme le centre du coup.
Oui, Stéphane. Bon, alors il y a eu un petit problème avec notre ami Stéphane. Apparemment, il y a encore donc un téléphone qui a coupé. On va parler du national, 9e journée. Donc le Paris et Atlético étaient exempts. Concarneau est allé gagner à Versailles 2-1, ce qui fait que Nancy et Concarneau sont en tête avec 18 points. 3e Boulogne-sur-Mer, 17 points. 12e Villefranche-en-Beaujolais, Versailles et Rouen, 8 points. 15e donc Quevilly-Rouen avec 7 points. Et 16e donc le Paris 13, Atlético et Châteauroux, 6 points. Et chez les féminines, donc c'était la 5e journée. Le PSG a battu Fleury 2-1, nul entre le PFC et Lyon 0-0. Dijon va gagner à Saint-Etienne 2-0, donc c'est un coup d'arrêt pour les féminines de Saint-Etienne. Donc le PSG en tête avec 15 points, devant Lyon 2e 13 points, 3e le Paris FC 10 points. Et je voulais simplement qu'on parle un petit peu des Lyonnaises en Coupe d'Europe qui ont gagné leur match à Wolfsburg 2-0 après avoir battu Galatasaray 3-0. Donc Rome et Lyon en tête avec 6 points dans ce groupe devant Wolfsburg et Galatasaray 0 points. Un petit commentaire sur tout ça. Alexandre,
Pour parler des féminines de Lyon, c'est toujours une bonne chose de gagner à Wolfsburg parce qu'on sait que c'est quand même une grosse équipe d'Europe. Et les deux prochains matchs des Lyonnaises, c'est contre Rome justement. Oui. Donc on espère une victoire des Lyonnaises qui pourrait assurer leur qualification.
D'accord. Je pense qu'on a retrouvé Stéphane, non?
Oui, on a,
ouais, ouais. Ouais, on a eu un petit bon, voilà. Alors, on a continué, hein, parce qu'on est pris par le temps, Stéphane.
Bien sûr, bah,
hein,
bien,
on a parlé de la Ligue 2.
Ouais.
Oui, on parlait donc du national. Bon, juste un petit mot, le Paris Atlético qui n'a pas joué ce week-end parce qu'il est exempt, hein, c'est normal, hein, ils sont 17. Donc, dernier, un petit mot sur quand même sur Versailles qui souffre un peu quand même. Hein.
Ouais, bah, Versailles, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre, Versailles. Ils ont été pas mal partis. Ils ont bien fini la saison dernière avec Jean-Louis Vasseur. Ils ont changé de coach là, il y a une quinzaine de jours. Et puis, ça a l'air compliqué, ça a l'air de se compliquer un petit peu, bien que ben, le national, on sait que c'est un championnat très, très dur. Hein, donc voilà, quoi, maintenant, il faut croiser le doigt là, pour eux, pour garder à ce club francilien en national.
Voilà, et pour finir, un petit mot sur les féminines, on en a parlé aussi. Le nul entre le Paris FC Lyon 0-0, même si Lyon donc, est maintenant deuxième à 2 points du Paris Saint-Germain, hein, 13 pour Lyon.
Ouais, mais c'est quand même à noter. Hein,
oui, ouais, bien sûr.
Je n'ai pas d'archives de D1 féminine, mais ouais. Ça doit remonter. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de dire quand ça a remonté à quand, en championnat, en courant championnat, que Lyon ne soit pas en tête du championnat, ou le Paris Saint-Germain avec 2 points d'avance. En plus, c'est très bizarre aussi, parce que c'est une période quand même où on ne peut pas dire que les Parisiennes soient impériales du Parisien, ouais. Du Paris Saint-Germain,
hein, oui, oui.
Soit impériales depuis le début de saison, quoi, hein, avec, ouais. Et l'ambiance n'est pas, apparemment pas au top, elles se sont pas qualifiées en Ligue des Champions, et puis là, c'est un peu comme un cadeau au bout de... Bon, ça commence seulement, hein, mais bon...
Ouais.
Il se retrouve, c'est bien en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus important que, comme moi, ça m'a vraiment marqué, oui. Ce qui s'est passé, parce que c'est même la première fois qu'on a carrément vraiment un championnat à 3, quoi,
Je prends les Lyonnaises, un peu plus serré, quoi, un peu plus serré. Ah, oui.
Mais en tout cas, derrière, le Paris FC et le PSG sont là, quoi, donc ça va pas être. Ça va pas être si facile que ça, quoi. Donc ouais. Non, je trouve que c'est un moment important quand même de la saison.
La prochaine journée, justement, c'est Lyon contre le PSG.
Voilà. Ouais, bah, donc, je pense que Lyon devrait gagner, surtout après ce match-là. Donc peut-être repasser devant, mais ça n'empêche pas. Et après, il y aura le match là, Paris FC, c'était où? C'était à Paris?
Oui, c'était à Paris.
Paris FC Lyon 0-0.
Ouais, voilà. Okay. Donc on va voir, en tout cas c'est assez elle qui marque tant de buts que ça, les Lyonnaises. Mais bon, je pense qu'on n'a pas un grand PSG cette saison,
ouais.
Mais je ne suis même pas sûr qu'elle termine dans les deux premiers, au bout du compte, j'en sais rien, peut-être, ouais. Que ça va les galvaniser d'aller à Lyon en étant en tête, quoi, mais bon.
Très bien, merci Stéphane, en tout cas merci, et rendez-vous la semaine prochaine.
Hein, ok, bah, bonne soirée à tous.
Merci,
bonne
en tout cas. Voilà, on a juste 30 secondes pour finir cette émission bien chargée. La saison de ski, elle commence ce week-end, messieurs, à Solden. Il y aura des rendez-vous donc à Val d'Isère. Et puis également, je crois, chez les femmes, ça sera du côté de Courchevel.
Tout à fait, voilà. Ça commence maintenant. Et pour nous, club parisien, ça va commencer à la mi-décembre, les premières courses courses de l'année, de la saison. Et donc, voilà, on espère que tout le monde est prêt et que les Français vont réussir à briller.
Merci en tout cas. Ça a été un plaisir de vous avoir. Vous avez vu comment ça se passe. Hein. Il y a beaucoup de... Ça se passe très vite, hein, dans les émissions. C'est chargé.
C'est sympa.
Hein.
Voilà. Je vais juste donner à l'antenne notre adresse mail. Oui. Si les gens sont intéressés, info@comiteskiparis.fr. Vous pouvez nous écrire sans problème. On vous renseignera sur toutes les questions que vous pourriez avoir.
Allez, merci à tous et à tous. Merci à Jason pour la mise en place technique de cette émission. Et je laisse maintenant le témoin à mon ami donc El Hadji pour Au bout du foot. On va prolonger donc tout l'actu foot de ce week-end. Belle soirée à toutes et à tous. Et on termine naturellement en musique. À la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Les monos de ski, on tient pas la perche sous le téléski. Les monos de ski,
JP et Denis, on est monos de ski. Nous on tient pas la perche sur le téléski.
Bronzage optimum, on a nos combis ouvertes. On gaulille partout, même sur les pistes vertes.
Check nos potes au bar,
et on claque des bises au spa.
Ici c'est nous les stars,
Matt, nos dinastars.
Alors besoin d'un conseil, on nous poste la station.
On connaît toutes les gonzesses
et les bons pour ce ski.
Tu sais c'est qui? Les monos de ski, on a
la belle vie. C'est nous les monos de ski. Hey, tu sais c'est qui? Les monos de ski. On tient pas la perche sur le téléski. Les monos de ski.
Torse nu en terrasse, la bélo sur les crevasses.
Jamais écrevisse, on se met du monoeil en masse. Petit verre de vin chaud sous le soleil de Méribel.